Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
La fraise, c'est le fruit préféré des Français qui en consomment chaque année un peu plus de 130 000 tonnes, deux fois plus que le pays n'en produit.
De là, vous sentez l'odeur, vous avez envie de les manger alors.
Ça sent le printemps, le soleil qui arrive. C'est un fruit qui est très bon à manger.
Je vais attendre un petit peu pour en manger parce que bah, déjà le prix, hein, juteuse.
On va prendre une petite barquette pour midi.
La saison des fraises démarre en avril et se termine mi-juin, du moins pour les fraises de pleine terre. Car on peut en trouver presque toute l'année des fraises productivistes importées d'Espagne ou du Maroc et cultivées en général hors sol et dont le goût laisse parfois à désirer.
Elles sont un peu sèches et elles ont un petit goût de navet comme ça.
Elles n'ont pas de goût quoi. Elles ont plus le goût de concombre que le goût de fraise.
Selon une étude réalisée en 2018 par le CLCV, seulement 32% des consommateurs se disent satisfaits par le goût des fraises. Ce n'est pas très cool. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous invite à la rencontre d'un groupe d'agriculteurs pas comme les autres.
Oh, les fraises et les framboises, les vins tous à bon but et les belles villageoises, nous ne les...
Les charlots n'ont pas revu les belles villageoises, mais d'autres ont perdu autre chose, le goût des bonnes fraises de leur enfance. C'est ce qui a poussé Gonzague et Guillaume à se lancer dans un pari un peu fou, cultiver des fraises n'importe où, n'importe quand, toute l'année, même en hiver, même dans le désert. Le projet s'appelle Agricool. Quand Marie-Josée Cougar, journaliste aux Échos, m'en a parlé, au début c'est vrai, j'ai cru à une blague.
C'est vrai que c'est assez surprenant. C'est l'histoire de deux jeunes fils d'agriculteurs qui n'avaient pas envie de devenir agriculteurs, Guillaume Rodinier et Gonzague Gru. Ils sont venus à Paris après leur école de commerce et puis ils trouvaient que c'était compliqué de trouver des bons fruits et légumes, ceux qu'ils mangeaient quand ils étaient chez eux, ceux que leurs parents faisaient pousser. Et les fruits n'étaient pas bons, les légumes n'étaient pas bons, ils se conservaient mal et tout ça a commencé à germer dans leur tête en quelque sorte. Ils réfléchissaient à la manière dont la planète évolue, dont ils avaient envie de poser leur empreinte sur cette planète et à la façon dont ils pouvaient contribuer à la lutte contre la pollution, etc. Un des constats qu'ils ont fait, c'était qu'en moyenne, en Europe, une marchandise parcourt 1500 km avant d'arriver chez le consommateur. Alors, entre le goût qui était insuffisant, les pesticides qui étaient en trop, les distances qui étaient trop longues, tout ça, ça a construit un projet. Et ils ont eu l'idée de récupérer des containers qui étaient, à vrai dire, d'anciens frigos destinés au transport de l'alimentation. Ils en ont récupéré un et ils ont commencé à travailler là-dessus pour faire des fraises directement à Paris, en Île-de-France. Enfin, le premier était à La Courneuve. Et ça a commencé comme ça. Ça n'a pas marché tout de suite. Ils ont eu plusieurs échecs. Ils ont fini par comprendre qu'il fallait quand même s'adjoindre de compétences agronomiques qui n'étaient pas les leurs. Ils ont travaillé avec l'INRA, ils ont sollicité beaucoup de gens. Et finalement, après avoir à peu près construit un projet, ils ont aussi convaincu des investisseurs, puisqu'ils ont réussi en deux fois à lever 35 millions d'euros. Y compris auprès de gens aussi prestigieux que Danone ou le groupe LVMH. Donc quelque part, c'est une belle réussite. Ces fraises sont excellentes. Ils en produisent quand même assez peu aujourd'hui. Ils fournissent quelques monoprix à Paris et la grande épicerie aussi. Mais l'objectif est de réussir à passer à la vitesse supérieure, d'en produire plus. Elles sont très bonnes, elles sont sans pesticides, elles sont très sucrées. Et ils ont même donc implanté leur affaire à Dubaï, où à Dubaï on n'en revient pas. Parce qu'à vrai dire, ils ont découvert les fraises et ils se sont rendus compte que ce qu'on leur faisait manger jusque-là, dont on leur disait que c'était des fraises, ça ressemblait à rien.
L'idée, c'est quoi ? C'est de les faire pousser dans un conteneur ?
Alors déjà, le conteneur, il a une drôle d'allure. Il tient du mobil-home et de la boîte de nuit. Parce que quand on entre là-dedans, c'est éclairé par des LED qui diffusent une assez jolie lumière violette, un peu tamisée. Les fraises sont sur les côtés. Elles poussent à la verticale. Et elles reçoivent une aspersion, une espèce de brume qui les arrose et qui contient des éléments nutritifs sur lesquels les deux fondateurs, enfin Guillaume Rodinier notamment, n'est pas très disert. Mais enfin, on comprend qu'il s'agit de bons éléments nutritifs pour les fraises.
Avec du coup, c'est ce que je disais, un rendement en mètre carré 60 fois supérieur aux fraises de grande distribution. Ça fait un peu productiviste, ça.
Ça fait tout à fait productiviste. C'est un petit peu la partie paradoxale de leur projet, parce qu'à la fois, ils veulent tourner le dos aux défauts de l'agriculture. Et en même temps, c'est vrai que cette image, elle est spéciale. Mais bon, ils se retranchent derrière le fait qu'il n'y a pas de pesticides, qu'ils ne parcourent pas de distances importantes, que leurs produits sont bons, consommés tout de suite. Voilà.
Vous les avez goûtés ?
Non, moi je ne les ai pas goûtés, j'attends d'ailleurs.
Ah. Donc on doit leur faire confiance quand ils disent qu'elles sont bonnes et plus sucrées.
Là, ça, j'ai un témoin, c'est le responsable des achats à la grande épicerie qui dit que quand il est livré, toute sa livraison agricole disparaît en une heure.
Et les prix, c'est plus cher que des fraises traditionnelles ?
C'est à un prix qui est un prix parisien, mais à 4,50€ les 250 grammes.
On imagine donc qu'on peut les faire pousser partout, il suffit de mettre des containers
Il suffit de mettre des containers. A priori, ça peut marcher absolument partout. C'est un peu l'idée qu'ils ont à terme, parce qu'aujourd'hui, leur modèle économique est très très loin d'en être un. Ils ne donnent même pas de calendrier pour expliquer quand ils vont arriver à l'équilibre. Donc aujourd'hui, ils ont levé 35 millions d'euros, ils emploient 80 personnes, dont seulement 6 agriculteurs, comme ils les appellent. L'idée est de réussir à baisser les coûts de production, à produire encore plus, donc ça veut dire à mettre d'autres conteneurs ailleurs.
Ailleurs, c'est notamment à Dubaï,
oui.
Donc faire pousser des fraises dans le désert, en gros. Hein,
voilà, ils ne sont pas les premiers, parce qu'il y a eu des projets fous de la FAO qui avaient aussi fait pousser des fraises dans le désert, sauf que là, c'était vraiment dans le désert, mais là... Premier conteneur dans le désert, ils l'ont placé à Dubaï.
Des fraises, est-ce qu'on peut imaginer étendre à d'autres types de fruits et légumes cette façon de faire pousser dans des conteneurs ?
Oui, ils y réfléchissent, ça fait aussi partie des projets. Ils pensent à la tomate, ils pensent aux herbes aromatiques. Donc oui, c'est possible apparemment, ça viendra.
On a entendu Marie-Josée, dans les conteneurs, Agricool obtient un rendement au mètre carré nettement supérieur aux fraises de grande distribution, avec l'idée de rapprocher les producteurs des consommateurs. C'est une tendance lourde et pas seulement à Paris. On a tous les images de ces potagers sur les toits des buildings de New York, de Montréal ou même de Bangkok, où certains font pousser des algues comestibles, comme on l'entend dans ce reportage de l'AFP.
À l'intérieur de la spiruline. Cette algue gluante et verte est riche en protéines et antioxydants. Et il s'avère que les toits des gratte-ciels de la capitale thaïlandaise sont l'un des meilleurs endroits pour la cultiver, grâce à la lumière et à une chaleur quasi constante.
J'ai eu envie d'aller voir de plus près comment cela se passait chez Agricool. Direction le 12e arrondissement de Paris, à 200 mètres de la salle de spectacle Accor Arena Bercy. Au début, on pense que c'est une installation de chantier. Le conteneur Agricool est situé en face de la Cinémathèque de Paris. C'est un parallélépipède rectangle d'une dizaine de mètres de long, recouvert de planches de bois traitées. Un petit coin de campagne à Paris, même si le bruit issu d'un gigantesque immeuble en construction empêche d'entendre le bruit des oiseaux. Sur le conteneur, des panneaux expliquent aux passants le projet, alors que des artistes ont peint des tableaux faisant référence aux bienfaits de l'agriculture urbaine. Sur le côté, de gros ventilateurs tournent à vive allure. La porte s'ouvre. Un grand gaillard répondant au nom d'Ali descend, les bras chargés. C'est la récolte du jour ?
Oui, du matin. Qu'est-ce que ça donne quoi ? On va dire à peu près 2,5 kg de fraises ce matin. Et voilà.
Je pénètre enfin dans le conteneur. Il y a une petite entrée avec beaucoup d'instruments. Mais ce que l'on remarque immédiatement, derrière un grand plexiglas, ce sont les allées de fraisiers environnées d'une lumière multicolore.
Bah là, on est dans le conteneur de Bercy, dans lequel on produit nos fraises.
Guillaume Fourdigny a 32 ans, c'est le cofondateur d'Agricool.
À l'intérieur, on voit directement les fraises. On a deux grands murs de fraises sur lesquels vont pousser nos fraises sans pesticides, avec très peu d'eau. Directement au cœur de Paris.
On regarde derrière vous, il y a plein de tuyaux, plein de... on a l'impression de presque de se retrouver dans une chaudière, il fait très chaud d'ailleurs.
Ouais, il fait en effet bon. Donc ici, on est directement dans le sas en fait, hein, de la ferme. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une cuve avec l'eau justement qui va être envoyée directement dans les tours. On a l'ensemble du pilotage, hein, on a le logiciel qui est ici, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, l'ensemble du conteneur est piloté avec justement du logiciel et de l'automatisation.
Alors là où il y a le logiciel, on voit un écran, on a des informations sur la température, l'humidité, 78%, voilà, ça commence à se sentir. Le pH également, et pic de production planté il y a 96 jours, quand est-ce qu'on cueille ?
Alors en fait, le cycle de la fraise, c'est 3 mois à peu près, un peu plus, donc là on est à la toute fin du cycle, voilà. Et en fait il y a du coup à peu près 2 mois pendant lesquels c'est la croissance de la plante, et puis 1 mois pendant lesquels tous les jours on va venir récolter des fraises directement.
Et alors qu'est-ce que c'est que ces... Il y a un grand panneau bleu, blanc, rouge, c'est quoi ?
Et ben c'est tout simplement la lumière, puisqu'en fait on va venir reproduire la lumière idéale pour faire pousser ces fraises directement dans le conteneur.
Vous avez commencé à planter des fraises dans l'appartement d'un proche. Comment est-ce que vous êtes passé au conteneur ?
Alors en fait on est passé au conteneur parce que c'est vraiment la brique de Lego idéale pour construire un paradis pour fraises directement dans la ville. Ça se transporte facilement et ça se retrouve facilement. C'est un conteneur recyclé qu'on a retrouvé.
Alors là, je vois des trucs qui volent. C'est des bourdons ?
Tout à fait. On a un écosystème complet d'insectes à l'intérieur du conteneur. On a des bourdons pour la pollinisation, mais on a aussi plein d'insectes qui viennent protéger l'environnement contre les agressions extérieures. Évidemment, on recherche à créer un vrai écosystème pour pouvoir éviter d'utiliser des pesticides et avoir des fraises qui soient à la fois saines et puis avec une super valeur nutritionnelle.
Il y a combien de fraisiers là à peu près ?
Alors on a plusieurs milliers de fraisiers dans le conteneur. On est capable de produire beaucoup. Hein. On peut produire de manière 120 fois plus productif au mètre carré qu'un champ, 15 fois plus qu'une serre directement dans le conteneur.
Comment c'est possible ?
Alors déjà on va produire en vertical. Donc on le voit là, c'est des murs verticaux qui vont produire ces fraises, donc on produit en 3D. Et puis on va avoir des conditions à l'intérieur du conteneur qui sont vraiment idéales. Il n'y a pas d'intempéries. On va essayer de recréer un paradis, c'est vraiment le mot pour ces fraises, pour que du coup elles puissent fournir plus de fraises au mètre carré avec plus de qualité. Parce qu'on a 20% de plus de sucre et 30% de plus de vitamines dans ces fraises.
Ah, c'est pour ça qu'elles ont du goût, parce que contrairement aux fraises sous serre qui, je cite ma rédactrice en chef, Clémence Lemestre, n'ont aucun goût.
En fait, ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de produire localement. C'est que quand on est capable de cueillir les fraises pour aller les distribuer directement, ce qui vient d'être fait ce matin, par exemple, ici dans notre conteneur au cœur de Paris, du coup, on a la capacité d'avoir des fraises qui sont cueillies à maturité, qui ont généré tout leur sucre, toutes leurs vitamines et qui ne vont pas être détériorées après la récolte, ce qui est fondamental pour avoir des fraises qui soient meilleures et plus saines. Il y a beaucoup de fruits qui sont jetés. Hein. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de la production agricole qui est jetée avec toutes ces détériorations pendant le transport. C'est fondamental qu'on soit capable de produire localement dans nos villes, sachant qu'il ne faut pas l'oublier, on va être 2 milliards de plus d'ici 2050 et 70% dans les grandes villes.
L'électricité remplace le soleil, dit comme ça, ça paraît pas très écolo ?
Alors l'électricité remplace pas le soleil, hein. On a évidemment c'est plutôt de la lumière avec un spectre idéal, mais en effet on utilise de l'énergie électrique renouvelable pour alimenter le conteneur, et on a du coup cette ferme électrique renouvelable directement au cœur de Paris qui évite de transporter pour le coup avec du fuel des fruits et légumes dans toute la France.
On n'a pas eu envie de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit ?
Alors, on utilise de l'énergie renouvelable qu'on achète directement parce que c'est plus simple. Mais en effet, on pourrait aussi compléter avec de l'énergie photovoltaïque selon l'ensoleillement des endroits où on est. Parce qu'on est aussi capable en ville de produire dans des dents creuses. On est capable de produire derrière les immeubles, on est capable de produire dans des sous-sols. Exactement là où, justement, bah, pas grand-chose se passe et où on est capable de recréer de l'agriculture.
Et ça, c'est une démarche qui intéresse beaucoup les villes ?
Ça intéresse énormément les villes, évidemment, puisque être capable de fournir des fruits et légumes qui soient meilleurs pour les habitants, c'est quand même un besoin de base. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients, dans des très grandes villes, qu'on mange des fruits et légumes qui sont potentiellement moins bons que ceux de nos grands-parents, ce qui est quand même très grave pour la base de notre alimentation. Donc avoir des fruits et légumes qui soient sains, qui aient de la valeur nutritionnelle et qui n'aient pas de pesticides, c'est vraiment pour nous une base. Et je pense que c'est la même chose pour justement les villes et pour les maires, et c'est pour ça qu'ils accompagnent fortement le mouvement.
Alors j'ai pas compté, mais j'ai dû entendre au moins 5 ou 6 fois pas de pesticides, ça c'est vraiment la clé.
Il faut pas de pesticides dans les fruits et légumes, c'est clair qu'aujourd'hui on a été presque habitué à ça et donc ça nous choque plus, mais je pense que ça, quand moi souvent on me pose la question de ce que nos enfants nous diront quand ils regarderont justement notre génération et qu'ils diront mais vous faisiez ça, pour moi les pesticides ça en fera vraiment partie. C'est vraiment complètement aberrant de penser qu'on va justement distribuer des produits pesticides sur tous les fruits et les manger après. Ça paraît complètement fou, et ça paraît aussi fou pour moi que d'imaginer des gens fumer dans la ou ce genre de choses. Donc je pense que vraiment il est temps de passer à l'étape suivante et de remplacer les pesticides, parce qu'aujourd'hui on peut le faire.
Au départ, en 2015, lorsque vous avez démarré votre activité, beaucoup ont souri. Vous aviez un peu l'impression de prêcher dans le désert ?
Quand on démarre une activité comme Agricool, forcément au départ les gens sourient ou on dérange, mais rapidement en fait, quand on voit qu'il y a des fruits qui sont excellents, quand on voit qu'on est capable de produire plus avec justement beaucoup moins, et ben en fait peu importe on va dire les phrases autour, on arrive à se convaincre, et puis surtout on arrive facilement à convaincre au fur et à mesure les gens de la qualité de ce qu'on peut produire,
et notamment les investisseurs, ça c'est important. Et vous avez été rejoint d'ailleurs pour lever 25 millions l'an dernier, des investisseurs de renom, ça fait chaud au cœur.
C'est hyper important d'avoir des investisseurs qui nous suivent avec la même vision, de vraiment créer un nouveau modèle agroalimentaire, agricole dans les villes. On a eu la chance en effet de lever à peu près 35 millions depuis le début d'Agricool, qui nous permet de vraiment développer la boîte et d'en donner l'ambition qui est nécessaire, et qui est de vraiment créer un nouveau modèle agricole. Complémentaire à celui qui existe, pour justement vraiment produire des fruits et légumes pour les gens tous les jours, parce qu'on n'a pas du tout envie de créer une agriculture bobo finalement soit juste là pour la para. On est vraiment en train de créer quelque chose qui va se retrouver dans toutes nos assiettes.
Il y a combien de containers installés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y en a 9 d'installés à Paris et autour de Paris.
Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans votre projet ? C'est quoi ? C'est trouver des emplacements en ville ?
Alors il y a beaucoup de complexité, parce qu'en fait on va aller de la recherche et développement, hein. On a inventé nos propres LED pour la lumière, on a inventé nos propres systèmes de culture, nos propres recettes agronomiques, et on va jusqu'au bout de la chaîne alimentaire par exemple une marque agricole de fruits et légumes directement vendue chez Monoprix ou à la Bellevie ou la Grande Épicerie. Donc en fait on va vraiment sur toute la chaîne de valeur, et du coup on a des profils tous variés, ce qui est une grande richesse évidemment, mais une grosse complexité, parce qu'il faut gérer toutes les problématiques de cette chaîne.
C'est rentable ?
Aujourd'hui, on est capable de produire de manière hyper productive. Évidemment, on n'est pas rentable dans l'entreprise, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de recherche et développement. On parle de quelque chose pour lequel on est en train d'inventer un nouveau modèle agroalimentaire. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, on est 80 personnes, il y a 50 personnes en recherche et développement. Donc évidemment, il faudra un petit peu de temps pour que ça soit remboursé en fraises et en fruits et légumes. Mais c'est évidemment le cas, et ça sera le cas dans l'avenir, forcément.
Là, vous travaillez justement sur d'autres fruits et légumes pour planter dans les villes ?
Oui, la mission d'Agricool, elle s'arrête pas du tout aux fraises. C'est le fruit préféré des Français. C'est vraiment une satisfaction pour nous d'avoir recréé des fruits qui soient vraiment excellents au cœur des villes avec les fraises. Mais évidemment, on va produire l'ensemble des fruits et légumes qui sont consommés directement en fait, chez soi tous les jours. On veut vraiment entrer dans le quotidien des gens avec des fruits et légumes qui soient meilleurs, plus sains et plus écologiques.
Est-ce que c'est un message qui passe bien auprès, j'imagine, des jeunes, mais est-ce que ça vous permet de trouver facilement des candidats, parce que je crois que vous embauchez?
Oui, on embauche, tout à fait, en fait, c'est vraiment passionnant, on arrive à recréer une vague d'entrain très forte autour de l'agriculture, puisqu'on va recréer ce qu'on appelle des cultivateurs, qui sont en fait des cultivateurs dans des containers agricoles, qui vont venir planter, récolter, entretenir les fruits et légumes, et les fraises pour l'instant, directement dans nos fermes.
Et là, c'est facile de trouver des candidats ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un modèle pour lequel beaucoup de types de profils peuvent justement candidater, puisque grâce à la technologie, on est capable de permettre à n'importe qui de devenir cultivateur. Donc, on a des profils très, très variés qui arrivent. Et du coup, en effet, il y a à la fois la possibilité de trouver plus facilement parce que tout le monde peut candidater, et en plus, parce qu'il y a une motivation qui est très, très forte, parce que derrière, il y a une mission très forte qui est de finalement venir fournir des fruits et légumes qui soient meilleurs aux gens. Et quand vous vous levez le matin et que votre métier, c'est d'aller cueillir des fruits qui sont plus sains, meilleurs, plus écologiques et que vous devez les distribuer, c'est quand même beaucoup plus intéressant, et du coup c'est plus facile pour nous de recruter forcément.
Des agriculteurs en quête de sens. Guillaume Fourdinier et son compère Gonzague Gru ont justement cette particularité d'être fils d'agriculteurs et d'avoir tourné le dos à l'agriculture traditionnelle.
Alors, c'était pas impensable, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'agriculture traditionnelle, et il faut aussi la transformer, hein, parce qu'on va nourrir la planète avec des modèles complémentaires et la transformation des modèles existants. Simplement, on avait vraiment vécu, les deux, c'est-à-dire grandir à la campagne avec des fruits et légumes excellents, et puis vivre à Paris avec des fruits et légumes pas excellents. Et c'était notre voie à nous, finalement, de combler ce lien, justement, entre ce qu'on avait pu vivre à la campagne et ce qu'on vivait à Paris.
À peine sorti du conteneur, je suis retourné voir Marie-Josée Cougard et je lui ai demandé si les fondateurs d'Agricool étaient symptomatiques d'un désintérêt pour une forme d'agriculture.
Je ne sais pas si on peut dire que c'est une tendance forte chez les jeunes, parce qu'il y a à peu près toujours le même nombre de jeunes qui s'installent. En revanche, c'est vrai qu'il y a une forme de crise qu'on retrouve plutôt dans les industries agroalimentaires qui, elles, témoignent très régulièrement d'avoir des difficultés à recruter. C'est surtout beaucoup le cas des coopératives qui s'en plaignent et qui ont des soucis pour trouver les bonnes personnes au bon endroit. Et ça vaut à la fois pour des gens qui ont des compétences de cadre dont on n'attend pas de qualifications très pointues. Et ce qui se passe, c'est que d'abord le recrutement est compliqué, et quand ces coopératives ont finalement trouvé la personne qu'ils pensent être la bonne, elle ne reste pas. Le jeune en question très fréquemment rend son tablier en quelque sorte parce que la coopérative n'a pas le modèle qui correspond à ce qui est le leur, à ce dont il rêve. Elle n'est pas conforme à son rêve de la planète. Elle vend des pesticides, elle n'a pas un modèle durable. C'est toute une série de critiques qui ne collent pas avec leur vision du monde et de l'entreprise. Et aujourd'hui, une grande catégorie de jeunes veut que les entreprises aillent avec cette philosophie, quoi, cette façon de voir les choses.
Et c'est vraiment difficile de recruter.
Et c'est vraiment difficile de recruter, oui. Je crois qu'il y a un défaut de recrutement de 220 000 personnes, quelque chose comme ça en France.
Cette défiance vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire, c'est aussi ce qui pousse les consommateurs vers les produits développés par Agricool.
Oui, tout à fait. Ouais, aujourd'hui, le consommateur de l'alimentation est devenu... on ne peut plus suspect. Et on a atteint des sommets incroyables. C'est d'une chose que, par exemple, le patron de Danone, Emmanuel Faber, avait formalisé en disant « Aujourd'hui, les consommateurs ne font plus du tout confiance aux grandes marques. Et quand ils prennent un produit dont ils ont vu la marque, la première chose qu'ils font, c'est de tourner la boîte qu'ils ont dans la main pour regarder ce qui est sur l'étiquette. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de donner un blanc-seing au produit. On veut savoir ce qu'il y a dedans. On se méfie a priori. Et de plus en plus de consommateurs, d'ailleurs, circulent dans les rayons des grandes surfaces avec une application que tout le monde connaît désormais, qui s'appelle Yuka, qui permet de scanner les produits et de savoir s'ils sont bons, pas bons. Donc finalement, le consommateur aujourd'hui se repose plus sur une application de ce type que sur ce que les étiquettes ou même les grandes marques peuvent prétendre quant à la qualité de leurs produits. Donc c'est complètement inédit, c'est un nouveau comportement, une nouvelle attitude qui oblige les entreprises à se repenser entièrement.
Merci Marie-Josée Cougar, journaliste aux Échos, et merci aussi à Guillaume Fourdinier de m'avoir accueilli dans son antre au Senteur de Fraises. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver un précédent épisode de la story consacré au phénomène Yuka à travers une rencontre avec sa fondatrice Julie Chapon. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec Michel Varnet. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.